Bonjour et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau et premier numéro de Parole aux auditeurs de cette semaine. La rentrée parlementaire en RDC a eu lieu le jeudi 15 septembre 2016 dernier dans les deux chambres du surpont du dialogue. À l'Assemblée nationale, Obem Inaku a notamment souligné dans son discours que le dialogue reste la sagesse à laquelle le pays a recouru pour conjurer toute tentative de déstabilisation des institutions et qui se fera donc conformément à la Constitution. Au Sénat, le président Léon Kengo Adondo a déclaré qu'un accord politique ne manquera pas d'être signé à l'issue du dialogue. Cependant, il espère que le dialogue agira dans le cadre de ses limites, étant donné que ce n'est ni un Parlement ni une Assemblée constituante. Il a en outre salué le compromis trouvé entre majorité et opposition sur l'ordre des élections organisées en RDC. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Marcel Ngombombala était à la réalisation et au standard et André Mungu était à la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Andy sous la supervision de Martin Sebujango. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés sur notre page Facebook. Le débat d'ailleurs se tient également sur notre page Facebook www.radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de commenter ces sujets autour de ces deux discours tenus à la rentrée parlementaire en RDC qui a eu lieu donc le jeudi 15 septembre 2016. La grande question aujourd'hui, est-ce que ce dialogue constitue-t-il une assemblée constituante ou encore un parlement? La crainte pour les uns et les autres, c'est de voir des recommandations, encore des résolutions qui en sortiront donc puissent être formulées à la limite au fait de la pertinence juridique de ces assises. Voilà, nous avons dans ces studios honorable Dieudonné Moisé qui nous a rejoint dans ce débat. Il est député national honoraire et également membre du PPRD. Bonjour honorable.
Bonjour Monsieur Gilles.
Alors, d'entrée de jeu, aujourd'hui, comment avez-vous analysé les deux discours? Je parle celui de Obem Inaku et de Kengo Wadondo à la rentrée parlementaire.
Merci Monsieur Gilles pour l'invitation. Il est vrai que, comme tout acteur politique, observateur de la scène politique congolaise, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les deux discours prononcés lors de l'ouverture ou de la rentrée parlementaire le jeudi dernier, qu'il soit celui de la chambre haute ou de la chambre basse. Et quelque part, j'ai senti qu'il y avait une synergie qui allait dans le sens de mettre en toile de fond, quant à ce qui concerne tous les deux discours, d'abord le forum actuel qui se tient au niveau national, j'ai parlé du dialogue national inclusif, mais également avec quelques petites questions soulevées par-ci par-là quant à ce qui concerne l'aspect économique et l'aspect fiscal. Mais ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que j'ai senti dans le discours du Sénat une certaine, un peu plus de sagesse, s'il faut le dire. Quant à ce qui concerne le discours de l'Assemblée nationale, un peu plus de vigueur. Vous comprenez que la République a besoin de ces genres de combinaisons pour faire une bonne sauce. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un peu plus de sagesse et de l'autre côté, vous avez encore un peu plus de vigueur. Et les deux mises ensemble, je crois que la République en a besoin pour se reconstruire. Donc, c'est que j'ai constaté, mais je crois que vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, que ce soit à la chambre haute ou à la chambre basse, j'ai compris qu'ils sont réunis sur la même préoccupation, c'est-à-dire la finalité, le point de chute de ce dialogue politique inclusif. C'est-à-dire que les recommandations ou le dialogue lui-même, le forum, ne doit pas se considérer comme une assemblée constituante ou comme un parlement. Et au niveau de l'Assemblée nationale, le même discours a été relayé par son président pour dire qu'il faudra que l'on tienne compte des compétences de chaque institution. Et j'ai compris qu'il plaidait bien pour sa chapelle, c'est-à-dire pour le Parlement et l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, nous attendons tous les conclusions de ce dialogue qui a été souhaité par tant des Congolaises et des Congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces conclusions, une fois arrêtées au niveau de ce forum, ça ne va pas s'exécuter comme si le forum était réellement une assemblée constituante. Ça va passer au niveau du Parlement pour que ça soit modélé et mis sous forme des recommandations acceptables par tous les Congolais.
Alors, on a suivi lorsqu'il y a eu débat au niveau de la commission élection dans les assises du dialogue. Il a été dit par un des co-modérateurs, c'est-à-dire le co-modérateur de la majorité, qu'à l'issue du dialogue, le gouvernement va tomber. Et c'est pour dire que finalement, nous tendons vers en fait, quelques dispositions, quelques recommandations qui pourraient énerver la Constitution.
Monsieur Gère,
le gouvernement déjà.
Je crois, Monsieur Gère, il faut d'abord rentrer dans le contexte exact de la tenue de ce dialogue. Le contexte exact, c'est lequel? C'est le fait que nous nous sommes retrouvés dans une impasse au niveau du processus électoral et qu'il était important que les acteurs politiques et même les forces vives de la société civile puissent se retrouver pour parler de l'avenir et du déblocage de ce processus. Ce qui arrive, c'est qu'à des moments exceptionnels comme celui-ci, il faut reconnaître que les solutions risquent d'être aussi exceptionnelles. Il y a des dispositions constitutionnelles qui risquent d'en souffrir. Nous devons le dire clairement. Par le fait d'ailleurs que quand vous voyez, puisque vous avez parlé de la commission élection, mais il est dit clairement que par exemple, à la date du 19 ou du 20 septembre, nous n'allons pas avoir la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République. Vous comprenez déjà que l'article 73 est en train de souffrir. Il y aura aussi d'autres articles qui vont souffrir, tout naturellement, notamment celui qui est relatif à la composition du gouvernement. La Constitution reconnaît dans un système démocratique normal que lorsqu'il y a eu élection, le gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. Mais nous sommes à des situations exceptionnelles où le gouvernement risque de ne pas respecter cette logique constitutionnelle, dans ce sens que après le mandat du chef de l'État, c'est-à-dire nous sommes le 19 ou le 20 décembre, nous souhaitons que la période qui va suivre, c'est-à-dire qui va au-delà de cette échéance, soit gérée de manière consensuelle, d'où la raison de la tenue de ce dialogue. Et pour gérer cette période de manière consensuelle, puisqu'il y a des acteurs politiques, comme c'est de la société civile, qui pensent que les élections n'ont pas été organisées par le fait que ceux qui ont géré de 2011 jusqu'à 2016 n'ont pas été capables de pouvoir nous amener à ces échéances, et qu'ils pensent qu'ils doivent participer à la chose publique pour crédibiliser le processus et amener le peuple congolais aux élections, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'anomalie. Ce qui est important, et nous devons le retenir, c'est qu'entre le respect des dispositions constitutionnelles et la préservation de la paix, qu'est-ce qui doit primer? Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est la préservation de la paix qui doit primer au-delà du respect logique de la Constitution. Puisque lorsqu'il n'y a pas de paix, et rendez-vous compte qu'il n'y aura pas de respect de la Constitution. En 1997, nous avons tenu tous à respecter ce que nous avons appelé la Constitution de la transition, lors de la transition de M. Mobutu. Et lorsque les forces de la FDL sont entrées dans ce pays, je crois que la première des choses, c'est de suspendre cette Constitution. Donc, je crois que la paix, elle est très importante, et elle se place au-dessus de tout.
Voilà, nous allons rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent participer à ce débat autour de deux discours lors de la rentrée parlementaire. Nous parlons du discours de Aubin Minaku et celui de Léon Kengo Wadondo. Le premier a insisté sur le fait que les assises qui se tiennent actuellement, notamment les dialogues politique puisse aussi se faire conformément à la Constitution. Et Léon Kengoua Dundou qui a demandé à ce que le dialogue puisse se tenir dans le respect de agir donc dans les limites qui disons qui sont les leurs. Donc voilà. Alors nous allons voir ensemble avec vous, chers auditeurs, comment vous nous avez rejoint. Vous êtes à Kinshasa et Jacques Papi à Bounia, 081-890-395 pour votre intervention en direct.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Merci à notre auditeur Eric Sozou, que nous aurons d'ailleurs en ligne d'un moment à l'autre, qui nous a écrit et qui a dit ceci. De prime abord, il faudrait rappeler que la session ordinaire est essentiellement budgétaire. C'est au cours de cette session que nous lisons la volonté, nous lisons la volonté de la représentation à atténuer la misère de la population et surtout ceux qui sont émargés dans le budget, en l'occurrence les agents de l'État. Mais aussi son intention de ponctionner dans nos revenus et par le jeu de la fiscalité les moyens essentiels pour le fonctionnement des organes de l'État. Concernant l'aspect politique soulevé par ces deux discours qui apparaissent complémentaires, semblent tout de même divergents en ce qui concerne les approches utilisées. Pour le président de l'Assemblée nationale, le dialogue semble être un cadre qui permet à la République de contourner les chaos. Celui du Sénat, pour sa part, rappelle effectivement que c'est un cadre non institutionnel pour dire qu'à la fin des travaux, les résolutions qui en sortiront devront être versées dans les institutions et ainsi revêtir un caractère imposable à tous. C'est Mathieu Béa depuis Kinshasa, les discours que nous avons, c'est déjà entendu et ça c'est là. Et une fois que nous attendons la même chose, s'il vous plaît, Radio Capi, il faut me mettre en direct, voilà, c'est ce qu'on va faire bientôt, Mathieu. Je pense que les deux discours ne sont pas rigoureusement prononcés. Les deux chambres constituent la plaque tournante de l'expression de la démocratie dans notre pays. Demander au dialogue d'agir dans les limites de leur action, c'est méconnaître son pouvoir en tant que représentation du peuple. Les deux chambres doivent dicter les limites qu'il ne faille pas franchir par le dialogueur au lieu de se plaindre. Merci Ngoma Moussinga de nous avoir rejoint, Jacques Poupakwa de Bouya aussi, et Félicien Kinoula de Kinshasa. Ngoma, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour aux auditeurs de la radio.
Alors, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, l'honorable Dieudonné Mazé, qui faisant le commentaire par rapport à ces deux discours. Celui du Sénat, il qualifie ça d'un discours de sage et de l'Assemblée nationale, un discours de vigueur. Alors, cette combinaison, comment, qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, monsieur l'honorable Moindre n'a pas totalement tort. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons besoin beaucoup plus des institutions fortes que de rencontres ou des hommes forts, comme qu'on en a toujours eu. Les hommes providentiels, c'est déjà passé. On a besoin, aujourd'hui, dans notre pays, des institutions fortes. Et ces institutions sont aujourd'hui représentées par le Parlement. Le Parlement constitue, comme je l'ai dit dans mon commentaire, la place tournante de la démocratie, de l'expression démocratique dans notre pays. Donc il faut à un certain moment que la représentation du peuple se mette à sa hauteur, à son niveau, pour que nous soyons dans la représentation valablement comme il se doit dans notre pays. Ce qui se fait aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème, l'on se remet à des politiques, des politiciens qui ne cherchent que des postes et qui probablement ne vont ne servir même pas aux intérêts du peuple. Et donc, par conséquent, l'on tournera à rond et la représentation du peuple se trouve marginalisée. Et quel est son pouvoir à ce niveau? Je pense que l'honorable devrait conscientiser ses pairs pour que nous soyons les institutions de notre pays soient beaucoup plus forte qui est celle de...
Oui, oui, oui. Goma, vous avez aussi suivi notre invité, parce que lorsque vous parlez de la solution, disons que nous avons souvent, à chaque fois qu'il y a crise politique, donc vous parlez de la formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est vrai, comme les autres, vous ne partagez pas cet avis, mais notre invité disait tout à l'heure qu'à des moments exceptionnels, il faut une solution exceptionnelle.
À des moments exceptionnels, il faut des solutions exceptionnelles.
En gros, sur la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Oui, mais l'on ne dira pas toujours que dans des moments exceptionnels. Ce n'est pas qu'à chaque fois, l'on sent qu'on est dans une certaine limite, qu'on puisse faire prévaloir le principe de moments exceptionnels. Non, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Quand on est un homme d'État, il faut toujours avoir à l'idée que la prévoyance, gouverner, c'est prévoir. Il faut prévoir que, voilà, à un certain moment, je dois arrêter, je dois prendre les mesures qui soient nécessaires pour que la continuité de l'État se fasse de manière normale, que l'on se mette toujours dans des situations qui ne nous permettent pas de vivre une démocratie. Parce que nous, on veut vivre une démocratie, on veut que nous soyons que nous ayons des institutions fortes, au lieu que nous ayons des hommes providentiels, parce que là, on est en train de prôner les hommes providentiels, alors que les hommes providentiels, comme on l'a vu depuis 1960 jusqu'à nos jours, les hommes providentiels n'ont jamais apporté quelque chose de bon. Ils n'ont jamais apporté quelque chose de bon, je suis désolé de le dire, mais ils n'ont jamais apporté quelque chose de bon. J'ai déjà vu, on a besoin que dans ces pays, qu'il y ait des choses qui marchent normalement dans une continuité de 10, 20, 30, 40 et pourquoi pas des siècles.
Merci beaucoup, Goma Mushinda, d'avoir appelé de Kinshasa, et vous l'avez si bien dit, en fait, c'est des gages dans votre intervention de tout à l'heure, qu'il va falloir qu'on évite à la population encore de plonger les pays chaque fois dans des événements exceptionnels pour finalement obtenir aussi des solutions exceptionnelles du genre gouvernement, formation du gouvernement de large union nationale. Et du reste, en sens politique, on sait que dans la formation des gouvernements d'Union nationale a toujours été un gouvernement le plus faible, parce que c'est tout le monde qui est là et tout le monde va ses responsabilités. Merci beaucoup, Goma, d'avoir appelé de Kinshasa. Et Jacques Pakmi de Bouya, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Oui.
Voilà, Jacques, vous êtes avec nous. Bon, là, des petits avec
vous. Oui, je suis avec vous.
Voilà, des petits avec votre
livre.
On parle d'abord Félicien. Félicien, vous êtes avec nous.
Alors, bonjour, Gervais. Bonjour à tous les auditeurs. Je salue l'honorable Dieudonné Mounzé, dont j'apprécie la pertinence de ses analyses. Mais... Allô? Allô?
Oui, allô, Félicien, on vous suit, on vous écoute.
Ok. Moi, je disais que ce pays, je m'en doute si dans les jours à venir, il ne risque pas de nous échapper, et nous ne risquons pas de devenir comme la Palestine, parce que quand je vois la classe politique qui nous dirige, qui nous gère, je ne sens pas le patriotisme, je ne sens pas vraiment le nationalisme, c'est les intérêts personnels qui comptent. Les discours qui ont été prononcés là-bas, ça ne veut rien dire du tout, parce que c'est depuis très longtemps qu'on nous parle de la Constitution, du respect de la Constitution, mais chaque jour nous voyons que la Constitution n'est pas respectée, et là au dialogue on n'a pas respecté la Constitution. Et même quand on dit que ce n'est pas une assemblée constituante et tout, mais quand on décide d'imposer les décisions de dialogue, et elles seront imposées et personne ne va sourciller. Et cet état des choses fait que je suis en train de me demander si seulement ce pays est dirigé de l'intérieur ou bien ce sont des ficelles qui sont en train d'être tirées à l'extérieur. Et il n'y a personne pour faire attention à cela à cause de la politique du ventre que nous faisons dans ce pays. Mais moi, ce que je demande, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils puissent vendre même le pays, mais qu'on pense quand même au peuple, ce peuple qui souffre. Moi, je pense que Dieu, en donnant à ce pays et aux Congolais, il a donné autant partout, il a donné les limites de chaque pays, à chaque peuple. Mais si le peuple congolais ne peut pas bénéficier des richesses que Dieu leur a données, et qu'il lui a donné plus tôt, je ne sais pas si ceux qui nous dirigent comprennent qu'ils ont un problème sérieux et qu'ils arrivent à en rendre compte un jour. Parce que tout ce qu'ils font là, on ne peut pas s'expliquer. De crise en crise, on a chassé Mobutu, nous, parce qu'à cause de la dictature, on nous amène à la démocratie. Ils sont passés à Tom City, ils ont fait la constitution, ils ont venu avec ici, on nous a forcé au référendum à accepter la constitution. Aujourd'hui, nous sommes encore là, à répondre toujours à zéro. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'avenir de ce pays? Moi, j'attire l'attention de ces dirigeants. En tant que centriste, nous soutenons tout ce qui peut être bien, d'où que ça vienne, mais nous n'allons pas continuer à observer tout ce qu'ils sont en train de faire qui ne va pas dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la nation. Les richesses, on en a toujours eu, mais ça n'a jamais donné de solution. On a vu ceux qui étaient au sommet de la richesse devenir pauvres. Donc on travaille d'abord pour l'intérêt supérieur de la nation.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Donc nous notons que vous estimez qu'au regard de la situation qui prévoit actuellement, il y a une influence extérieure, mais vous regrettez que tout ce qu'on a construit durant des années, durant des mois, des décennies, pour arriver à cette démocratie, voilà que vous craignez, vous personnellement, que cela puisse se volatiliser dans la nature, ou encore se voler à l'éclat, d'autant plus qu'il y a eu des efforts des nationalistes, des patriotes, des Congolais, qui ont même payé de leur prix aujourd'hui pour, en fait, avoir ce que nous avons appelé le pacte social, le pacte républicain, la constitution qu'on veut bafouer actuellement. Merci beaucoup, Félicien, et vous estimez que, finalement, les deux discours, c'est déjà entendu et c'est déjà écouté par les passés. Merci beaucoup. Maître Jean, vous êtes à Mbandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Capi.
Voilà. Quel est le commentaire que vous avez par rapport à ces discours qui, du reste, au vu de plusieurs observateurs, ce sont des discours complémentaires parce que c'était tout sur le fond du dialogue.
Oui, à l'entrée du jeu, Radio Capi, je dirais que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la machination. Si vous allez suivre les discours du président de l'Assemblée nationale qui dit que les dialogues va aller dans le sens des délais constitutionnels. Ça, c'est dissimuler les caractères donc essentiels de la majorité présidentielle. Que nous devons inviter à ce pays de crise à crise. Où est-ce que nous allons partir? Avec les recommandations de concertation nationale, ça n'aboutit à rien. Mais non, les dialogues, ça ne va rien aboutir. Est-ce qu'il y a réellement les dialogues dans notre pays? Ceux qui sont là, Vital Kamerhe, je vous l'avais dit l'autre fois, qui sont seulement à la quinte de pouvoir. Ils sont seulement à la quinte de postes ministériels et primatures. Vous croyez qu'ils vont faire quelque chose d'important? Si c'était un vrai dialogue, on devrait tenir compte de l'inclusivité. Étant donné qu'il n'y a pas eu inclusivité, il n'y a pas de dialogue. Il y a tant que la majorité de l'opposition puisse se rassembler de nouveau, non pas pour chercher l'unité de la RDC. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est un pays qui nous donne beaucoup d'exemples en Afrique. Et la RDC est en train de s'empirer avec les dirigeants égoïstes, on ne comprend pas.
Voilà, maître Jean, merci beaucoup d'avoir appelé. Donc, pour vous, le vrai dialogue qui devrait impulser ou renforcer encore l'unité nationale, ce serait plutôt le dialogue inclusif. Aujourd'hui, vous remettez en cause tout ce qui se fait, d'autant plus que vous estimez qu'il ne s'agit pas là d'un dialogue réellement inclusif. Alors, maître Laurent, vous nous avez également rejoint. Merci. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Maître Laurent, vous venez de suivre notre invité tout à l'heure, qui a parlé de cette synergie qui allait dans les sens, donc en écoutant les discours, qui allait dans les sens de ces dialogues, à ce fond de ces dialogues, en élevant donc deux points, à savoir au niveau des Sénats, les discours que lui il a qualifiés de sages, et celui de l'Assemblée nationale, un discours de vigueur. Donc cette combinaison, qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, en tout cas, quant à moi, j'ai dit ceci. Donc, même cette combinaison-là, j'ai dit, ce ne sont que des paroles que nous n'avons pas à considérer. Parce qu'ils peuvent dire pour ne rien faire. Ils peuvent parler de la rigueur, de la sagesse, mais pour ne rien donner à la communauté par rapport au respect des lois. Nous disons un pays où on ne respecte pas la loi, ça devient une jungle. Alors, ils veulent que la RDC devienne une jungle où n'importe qui viendra prendre une portion de terre ou tout ça, comme ça se passe. Alors, nous pensons qu'ils ont intérêt à comprendre que seule la loi doit primer et nous devons respecter. Et je rappelle tout simplement l'article 64 de la Constitution. En dehors de ce que cet article dit, personne ne peut exercer le pouvoir en violation de la Constitution, tout comme un groupe d'individus qui l'exerce en violation de la Constitution. Mais le dernier alinéa ajoute ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Alors, les gens qui sont au dialogue là, qui sont au dialogue, tout ce monde-là, il faut les répertorier. S'ils vont consacrer un glissement en violation de la Constitution, signifie qu'ils ont fait le renversement du régime constitutionnel qui fixe le mandat pour 5 ans à quiconque qui va diriger le pays et qu'ils veulent perpétuer ça, c'est-à-dire renverser l'ordre constitutionnel où quand on est à la fin du mandat, on dit non, nous ne sommes pas encore à la fin, nous devons continuer à boire, à manger. Alors là, c'est une infraction imprescriptible si les gens du dialogue là vont constater, à supposer même la séquence qu'ils ont dit législative, présidentielle et provinciale de législative. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut aller au-delà du délai constitutionnel. Donc tous sont tombés dans l'imprescriptibilité de l'infraction contre la nation et l'État congolais. Nous pensons que dans la Constitution, je m'excuse peut-être, pour que vous me compreniez un peu. Oui, même lorsque la Constitution dit le président existe reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, on ne parle pas du nouveau président qui sera élu. On dit de celui qui est déjà élu.
Je comprends parfaitement bien votre colère et aussi votre interprétation de l'article 64. Mais si on peut quand même en revenir un peu sur tout à l'heure les discours du président du Sénat qui en fait parlait, il espérait que le dialogue agira dans les...
Oui, que le dialogue n'a aucun pouvoir sur le pays. Le dialogue n'a aucun pouvoir. Au contraire, s'ils font ce dialogue-là pour comploter contre la nation, en tout cas... Ils sont tous connus ceux qui sont là, y compris les internationaux qui peuvent chercher à déranger la constitution du pays. Ils seront tous convoqués le moment venu même dans leur pays, et nous qui sommes ici et ceux qui sont les nôtres seront aussi devant la barre, pas au niveau national mais international.
Merci beaucoup. Je comprends parfaitement bien votre colère, mais alors il est quand même temps de dire quand même au fait à ceux qui viennent après nous rejoindre que vous avez pour vous insisté qu'un pays où l'on respecte, que l'on ne respecte pas la loi, c'est quand même la jungle. Et là, vous souhaiterez qu'après avoir, comme votre prédécesseur l'a souhaité également, après avoir construit ce pays et arrivé à mettre sur pied une constitution, il est temps quand même que chacun de nous dépasse ses passions, ses égaux, pour arriver à avoir, en fait, à comprendre que la RDC, c'est un patrimoine national, un patrimoine pour tout le monde. Merci beaucoup, Maître Laurent, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des pannes et des scènes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir, du point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 10h, 16h, découverte et cocktail de la Tunisie sur Radio Okapi.
Voilà, il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission Parole aux auditeurs. Vous tous qui nous suivez à travers le pays et à l'étranger, notez que nous parlons de ces deux discours de deux chambres du Parlement. Le premier, celui de l'Assemblée nationale qui a tourné autour de ce dialogue qui se tiendra conformément à la Constitution et le président du Sénat a déclaré qu'un accord politique ne manquera pas d'être signé à l'issue de ce dialogue. Mais cependant, il espère que le dialogue agira dans le cadre de ses limites, étant donné que ce n'est ni un Parlement, ni une Assemblée constituante. Nous revenons dans ce studio avec vous, honorable Dieudonné Moïse. Vous avez suivi les uns et les autres, d'abord par Ngoma qui avait ouvert le débat, qui a insisté afin que nous puissions éviter, en tout cas que les hommes politiques, les responsables, que les leadership puissent éviter de plonger le pays chaque fois dans des événements exceptionnels, dans des moments exceptionnels, comme vous l'avez dit. Il y a Félicien qui a parlé de la mer extérieure. Il y a une influence extérieure et il regrette énormément. Jean-Paul et Maître Laurent qui ont insisté également sur la jungle aujourd'hui, le non-respect de la Constitution, parce que finalement on tourne autour des ponts. Les deux discours rappellent certes cela, mais on a comme l'impression qu'on fait du surplace.
Monsieur, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres, et je me rends compte carrément votre émission est bien suivie à travers le pays. Et il s'agit d'une émission essentiellement de vos auditeurs. Et qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à toutes ces réactions? Je voudrais d'ailleurs commencer par M. Ngoma, à partir de Kinshasa, qui déplore le fait qu'aujourd'hui, nous avons un peu comme une sorte de marche arrière, puisque nous voulons penser à des institutions faibles par rapport à des hommes forts. Non, je suis d'accord avec lui. Qu'il faudra que l'on cesse avec le surplace ou les habitudes du passé et qui nous font toujours croire qu'il faut avoir des hommes forts à la place des institutions fortes. Donc nous sommes à des moments où, comme à travers le monde, à travers l'Afrique et l'Europe, même les Amériques, il faut avoir des institutions fortes à la place des hommes forts. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans ce pays? C'est que nous faisons toujours un peu comme une sorte de machination, un comportement qui n'amène pas nécessairement à rendre les institutions fortes. On pense toujours qu'à la place des institutions fortes, il faut avoir des hommes forts. Bon, j'ai toujours concédé ça, parce que je me rends compte qu'il y a encore des gens qui ont un peu comme une sorte de nostalgie, puisque peut-être qu'à des moments, ils ont connu des hommes forts, et ils pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas un homme fort, donc le pays n'est pas dirigé. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, il s'agit d'une démocratie classique connue sur le plan international, c'est que nous cessons avec les hommes forts et nous rentrons dans la logique des institutions fortes. Lorsque l'on commence à contester les élections déjà au début de leur organisation, lorsque l'on se prépare à contester les élections, puisqu'on sait que les gens ne vont pas accepter le verdict des urnes, ça arrive nécessairement à affaiblir les institutions déjà au départ. Rappelez-vous des élections de 2011. Nous sortons de ces élections. Quel a été le comportement des uns et des autres? C'est-à-dire qu'au départ, ces comportements fragilisent réellement les institutions de la République. Donc, je suis d'accord avec M. Ngoma, mais je comprends aussi sa préoccupation par rapport à des moments exceptionnels. Mais que voulez-vous? Je suis d'accord que gouverner, c'est prévoir. Mais lorsque l'on gouverne et que l'on prévoit, il peut y avoir ce que nous appelons les impondérables. Mais ces impondérables doivent être dans la logique d'une loi du hasard. Il ne faudra pas que ce soit une règle. Lorsque ça devient une règle, ce n'est plus de l'impondérable. Donc, la situation est regrettée par rapport à des moments exceptionnels qui nous arrivent dans le pays et qui nous amènent à des solutions aussi exceptionnelles. Il est vrai qu'il faut déplorer, mais comme nous le disons tous les jours, à l'impossible, ni le crime.
Alors,
et la plus belle femme du monde,
c'est qu'elle. Alors, encore un peu le discours des uns des autres, les débatteurs du jour, donc les auditeurs qui ont parlé tout à l'heure, on a l'impression qu'on regrette le fait qu'aujourd'hui on a une classe politique très versatile. Figurez-vous que nous sommes en 2012-2013, les concertations nationales se tiennent. À l'issue de ces concertations, on nomme un comité de suivi, c'est-à-dire qui est dirigé par les deux présidents, celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, j'ai cité Robert Nyakou et Léonce Guadono, pour le suivi permanent de la cohésion nationale. À ce jour, en entendant ces deux discours, je crois que nous avons des messages qui nous sont arrivés. On a comme l'impression que les deux, chacun, veut se recroqueviller pour se cacher, parce qu'on veut leur voler la vedette. Je ne sais pas si c'est l'analyse des auditeurs, parce qu'au moment où on leur avait donné de faire le suivi dans le cadre du comité permanent, il n'y avait pas cette histoire de ni parlement, ni constituante, ou assemblée constituante, parce que c'était des présidiums de tout. Mais maintenant, ils sortent de leur tanière pour aller à la tour d'ivoire pour réagir.
J'apprécie cette analyse de vos auditeurs, mais je voudrais simplement dire que, bon, sous le oui, il s'agit d'un comportement politique. Je suis d'accord qu'en 2013,
lorsque vous êtes cadre du PPRD, est-ce que vous avez une analyse un peu personnelle d'abord, et puis une analyse.
Oui. Quand ça concerne l'analyse personnelle, je vous dis qu'il s'agit d'un comportement, disons, politique, vous voulez. Hein, ce qui est vrai, c'est qu'en 2013, nous avons dit ce que nous avons appelé les concertations nationales. Et les concertations ont été pratiquement co-présidées par les deux présidents aujourd'hui de deux chambres. Mmh. Et qu'à l'issue de ces concertations, les deux ont constitué ce que nous avons appelé la présidence pour le comité de suivi des résolutions. Et rappelez-vous qu'en 2014, lorsque les rentrées parlementaires s'ouvraient, pratiquement le président de la Chambre haute, Léon Kengo Adondo, revenait avec un ton très sévère pour dire que les résolutions n'étaient pas encore respectées ou bien appliquées. Mais lorsqu'il y a eu formation du gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire le gouvernement actuel, nous avons senti que sa famille politique, et j'ai voulu dire, l'opposition républicaine, est entrée dans le gouvernement.
Ministres.
Oui, tout à fait, avec deux ministres importants d'ailleurs, mais le langage a un peu plus ou moins changé. Ça, c'est mon analyse personnelle. Mm-hmm. Et j'ai senti que le président de la Chambre haute n'est plus revenu plusieurs fois pour réclamer le respect des résolutions des concertations nationales. Donc ça, c'était un comportement des non-politiques. C'est pour cela que je suis d'accord avec mon ami Félicien de Kinshasa, et que je salue en passant, puisque je le connais personnellement, et j'ai toujours partagé avec lui beaucoup de points de vue quant à ce qui concerne le déroulement de la politique congolaise. Et je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit quelque part, les gens sont en train de privilégier leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de la République ou de l'intérêt général de la population. Et là, je suis d'accord. Il faudra que dans ce pays, nous puissions avoir réellement des gens qui ont de l'altruisme pour eux-mêmes, qui sont des patriotiques, des gens qui ont le nationalisme, comme il l'a dit, pour que la République puisse avancer. Si nous avons des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur petite famille politique ou biologique, je crois que le pays va toujours trotter. J'ai toujours partagé avec M. Félicien beaucoup de points de vue, et il sait que dans la tenue de ce dialogue, je connais personnellement son point de vue par rapport à ça, nous nous sommes battus réellement pour que l'on arrive à la tenue d'un dialogue politique national véritablement inclusif. Et là, je peux amorcer la question et la préoccupation de M. Jean-Paul, Maître Jean-Paul, pour vous dire que réellement, au début, la volonté, c'était de vouloir l'organisation d'un dialogue politique national véritablement inclusif. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a une frange de l'opposition, et je parlais du rassemblement qui ne se retrouve pas à la cité des Unions africaines, réellement, c'est une préoccupation. Je ne suis pas porte-parole ni du président de la République, Joseph Kabila, ni du facilitateur et de
membre
de la majorité. Mais je pense personnellement, puisque par moment, vous me demandez de faire mon analyse
personnelle,
je pense personnellement que les deux personnalités, j'ai parlé du chef de l'État et j'ai parlé du facilitateur et de Mokodo, ils doivent souffrir personnellement dans leur chair et dans leur cœur par le fait que quand vous suivez la généalogie et la démarche par rapport à cette famille politique, j'ai parlé de l'UDPS avec son président, le chef de l'État a amorcé des consultations presque particulières avec cette famille politique. Et Demkojo a fait la même chose. Et rappelez-vous, je ne voudrais pas reprendre la phrase de Demkojo qui disait plus ou moins la même chose en disant que le dialogue ne peut pas se tenir sans éteindre ce qui s'est dit. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, le fait que cette personnalité, avec un groupe de ceux qui sont dans la dynamique de l'opposition ou dans le groupe des 7 ou le G7, il est vrai qu'il y a des gens qui souffrent. Et même le président de la République doit en souffrir puisque ça n'a pas été son plan primordial. Mais que voulez-vous, nous sommes aussi dans une démocratie où quelqu'un peut penser qu'une démarche n'est pas normale et prendre sa position. Donc, l'inclusivité ne doit pas être considérée comme une obligation au communisme.
On va revenir à vous, honorable Dieudonné Mosé. C'est le temps de rouvrir les standards avec Pacifique de Lubumbashi. Et c'est l'invité de Guémena et Maître Sonville de Lubumbashi. Pacifique, vous êtes avec nous.
Oui, JR, bonjour.
Voilà, alors Pacifique, aujourd'hui, c'est vrai, la rentrée parlementaire, disons la session qui vient de s'ouvrir, disons dans la logique, on sait que c'est une session purement budgétaire, n'est-ce pas ? Alors, avec cette cette situation politique que nous traversons. Est-ce que vous ne craignez pas, comme les autres, qu'effectivement, les résolutions de ces dialogues ou les recommandations resteront peut-être dans les tiroirs, en attendant qu'on puisse vider la matière relative au budget?
Non, mais bon, en fait, eux-mêmes, ils savent tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Vous conviendrez avec moi que les deux discours sont pratiquement contradictoires. Vous avez senti vous-même que c'est contradictoire. Alors, c'est vrai que le président du Sénat a dit que ces assises de dialogue ne peuvent pas se substituer à une assemblée constituante, d'abord pour n'avoir pas reçu le mandat du peuple congolais. Le dialogue lui-même n'a pas été inclus. Alors, certains disaient ils sont partis pour le partage du pouvoir. Vous allez plus comprendre aujourd'hui que la majorité, étant dans une position de faiblesse, cherche à négocier pour qu'il y ait le gouvernement d'union nationale. Et ça, c'est plus haut dans la constitution GR. On peut se poser autant de questions. Et que ça soit également du président du Sénat lui-même. Il s'est contenu aussi par deux fois. S'il n'y a pas inclusivité, nous allons suspendre notre participation. Il y est. Il est resté là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait vu qu'on avait pris Vidal et Kamer et on l'avait choisi comme modérateur. Il a vu que c'était encore le pouvoir qui était en train de partir. Alors, ce pays doit être géré comme ça. La jurisprudence se croit en cette matière. Parce que l'article 73 est clair là-dessus. Et tout le monde le sait. Tout le monde connaît l'article 73 qui est le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Mais aujourd'hui, quand M. Moïse qui parle est là avec vous comme invité, où est-ce qu'il met cet article? Il interprète comment cet article est géré. Aujourd'hui, à 3 mois de la fin du mandat du chef de l'État, on voudrait que nous ayons encore un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas possible. La faiblesse du dialogue, c'est le non-respect de l'observance de la résolution 22 et 77, organiser les élections dans les délais. L'honorable Moïse qui est là, est-ce qu'il est capable de nous dire si réellement les dialogues ont respecté la résolution 2277 et qui aurait l'organisation des élections dans les délais? Il ne pourra pas me le dire parce qu'aujourd'hui il dit autre chose. Celui qui m'a précédé a fait mention de l'article 64. C'est clair là-dessus. Alors, je voudrais parler du président du Sénat aussi, qui est en train de jouer à une politique qui va se retourner également contre lui. Donc, ce sont des opportunités. Il voudrait vous dire ici que voilà, ce n'est pas une assemblée constituante, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas accepter à 100% les résolutions du dialogue pendant qu'il y était et il a fini tout ça. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons du Niger et toute la population qui est en train de nous suivre, c'est parce qu'il sait que l'article 75 lui donne aussi le pouvoir de pouvoir faire l'intérim. L'intérim selon les articles, si je ne m'abuse pas, 78, 81, 82, qui dit qu'il doit être provisoirement, exercer
la transition pour organiser l'élection.
Aujourd'hui, au moment où nous parlons du Niger, même lui, le président du Sénat, il ne le fait pas parce qu'il est dans les dépassements. En principe, il ne le fait pas. Mais pour sauver notre pays, nous pouvons encore le garder là-bas. Mais nous disons, à un gouvernement d'union nationale. Sinon, les gouvernements qui vont se succéder, ils vont se comporter aussi de la même manière. Ils vont se dire, bon, la fois passée, c'était comme ça, nous aussi, nous agissons comme ça. Nous serons une république ou nous serons quoi? Non, c'est assez. Nous disons que c'est assez, que la majorité comprenne, que l'honorable Moïse qui est là, qu'ils comprennent, et qu'ils ont tenté par verrouiller certains articles et qui n'ont pas pu marcher. Ils sont partis à la Cour constitutionnelle, ça n'a pas pu marcher. Et aujourd'hui, ils cherchent maintenant, dans les dialogues ici, à dupatier des choses pour l'obtention du gouvernement d'union nationale. Non, la population va barrer la route pour s'agir.
Merci beaucoup, maître. pacifique de Lubumbashi. Une seule question qui, en fait, se dégage dans vos propos. Hein. Aujourd'hui, les dialogues se tiennent-ils dans les cadres de la résolution 2277? Est-ce qu'on respecte l'esprit et la lettre de la résolution? Je crois que nous allons analyser tout à l'heure avec notre invité Dieudonné Monté, honorable. Et puis, vous avez parlé comme les autres, comme vos prédécesseurs, sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. C'est vrai, en sens politique, on dit que c'est parmi les gouvernements les plus faibles, parce que, bon, finalement, on a des belligérants ou on a encore des deux parties en conflit. Et le résultat n'a toujours pas été celui escompté, comme nous sommes habitués, et notre invité l'a dit, à des moments exceptionnels, il faut des solutions exceptionnelles. Bon, on va peut-être terminer sur les résultats que cela a toujours déjà donné. Etienne Bitou, vous êtes à Guémena, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole, Etienne, après avoir suivi vos prédécesseurs et les autres qui en reviennent un peu sur les caractères inclusifs de ces dialogues, qui n'en étaient pas un, donc aujourd'hui, ce qui fait que les résultats risquent même d'être biaisés.
Ok, merci monsieur le journaliste. En partageant partiellement l'avis de mes prédécesseurs, vous avez compris là que beaucoup ont dénoncé même le caractère non inclusif de ces dialogues. Et qu'à cela ne tienne, nous avons compris que le dialogue a un pilier et qui est presque à sa phase finale. Mais en commentant un peu le dédiscours dont étions dans l'émission d'aujourd'hui, en suivant le président de l'Assemblée nationale, il a martelé sur le respect de la Constitution et c'est ce que tout le monde attend. Parce qu'aujourd'hui là, on ne peut rien faire en dehors de la Constitution. Et aussi, s'il faut d'autre part suivre le discours du président du Sénat, donc lui aussi a parlé vraiment tout en état opposant. Donc on a compris que chacun a essayé de parler selon sa tendance politique. Mais la plus grande question que moi je me pose et qui est posée presque par la population congolaise, c'est que oui, il est vrai que les choses sont en train de tendre vers la fin et que maintenant, il va falloir peut-être un gouvernement d'union nationale, mais le caractère inclusif dont tout le monde a réclamé n'a pas eu lieu. Est-ce que, je me pose la question, ce gouvernement va réellement inclure ceux qui sont là? Mais sinon, moi, j'avais une préoccupation. Moi, je pourrais, comme Congolais, proposer ceci. Parce que quand le président du Sénat dit que tout ce qui va se passer n'est pas, ce n'est pas une assemblée constituante, donc moi, je pense que selon mon point de vue, c'était que les clauses de ces dialogues devraient être d'abord renvoyées à la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale, parce que ceux qui sont là sont encore dans leur mandat et ils sont là, ils représentent la population congolaise parce qu'ils ont été mandatés par la population. Donc, les clauses devraient être d'abord renvoyées à l'Assemblée nationale. Après débat et l'approbation de l'Assemblée nationale, qu'on pouvait peut-être en appliquer. Parce que je sais que l'Assemblée nationale pouvait se statuer là-dessus, et aussi le Sénat devait renvoyer pour la dernière lecture. Mais si seulement, vous voyez là, il y a une certaine frustration où le Sénat, l'Assemblée nationale, même certains députés, même de la majorité et de l'opposition, ne partagent pas le même point de vue.
Oui, même alors, même alors que cela va se passer ainsi, est-ce que nous ne pouvons pas analyser par rapport à ce que nous avons connu, le débat autour de la modification de la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale, la fameuse question sur l'article 8 qui avait suscité débat sur l'enrôlement, le recensement et au niveau du Sénat, c'était pas facile, on n'a pas accepté facilement. Est-ce que nous ne risquons pas de, en fait, comme qui dirait, l'histoire ne risque pas de danser quand on revient sur le même film que arrivé à l'Assemblée nationale, les résolutions du dialogue, parce que vous l'avez dit, l'Assemblée nationale, c'est la représentation de la majorité, le Sénat, c'est l'opposition, alors ça risque de retarder encore les choses et de d'éterniser encore la situation, hein, de pourrir la situation davantage.
Oui, retarder, monsieur le journaliste, d'accord, mais le vrai problème, c'est que chaque institution doit jouer son rôle. Et le fait de renvoyer à la représentation nationale, c'est remettre nos députés nationaux devant leurs responsabilités. Parce qu'eux aussi doivent savoir que dans peu de temps, ils viendront auprès de la population pour qu'ils les tiennent à
pour se demander encore le
moment. Donc, moi, à mon avis,
merci beaucoup, Étienne. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent aussi d'intervenir. On va prendre Maître Sombile. Maître Sombile, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Gire. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Cathy. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, monsieur Gire, moi, je dirais que les deux positions, les deux chambres, ce ne sont que des fantaisies. C'est un non-événement pour nous. Même quand M. Teng aujourd'hui déclare que le dialogue n'est pas une constituante, le dialogue n'est pas une assemblée. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Qui a mandaté ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui dans ce dialogue-là? Parce que nous avons des représentations. Personne. Vous, M. là, c'est quoi? Moi, je dirais ceci. Le problème qui est là, c'est quoi, M. Gilles? Nous disons ceci. Le dialogue n'a pas été inclusif. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, les résolutions qui se toucheront de ce dialogue-là ne seront pas opposables à tous. Donc, c'est une très grande frange de l'opposition, la vraie opposition, permettez-moi le terme, qui n'a pas accepté de prendre part à cette mémoire-là. Ça, c'est un deuxième fait. Troisième fait, moi, je dis que ceci. Lorsque M. Tengo Andondo dit que, déclare que ce dialogue n'est pas une constitution, mais les députés de son parti, ils ont demandé de claquer la porte. Il leur a répondu non, c'est parce que je suis là en qualité du président du Sénat. Si vraiment ils connaissaient que ce dialogue-là n'a aucune portée, n'a aucune importance, n'a aucune grosse position sur la population, ils ne devaient pas prendre part à ce dialogue-là. Moi, je dis ceci, monsieur Pierrot. Ce dialogue a été pour détruire l'espace politique. Aujourd'hui, vous pouvez s'assurer de ça. Il y a des qui sont en train de crépiter, il y a même des morts. Aujourd'hui, ici à Lubumbashi, nous sommes en train de vivre un état de siège. Tout cela a été dit que ça doit être débattu au sein de ce dialogue. Les seuls qui sont participés à ce dialogue-là, ils sont en train de violer la Constitution. Quand même ils disent que tout doit se faire au respect de cette Constitution. C'est la Constitution. Ils ont adopté pour ce qui est la réforme totale du fichier électoral. Cette réforme peut prendre 16 mois et 1 jour. Ils ont déjà violé la Constitution. Et aujourd'hui, M. Corneille, quand même, il a déjà commencé la réforme de la réforme de Bangui. Il a de saisir la Cour pour rapport de la Cour constitutionnelle. C'est de violation à violation. C'est que ce dialogue-là est en train de violer.
Je comprends même
la résolution 2270.
Oui, mais je comprends parfaitement bien votre souci, votre colère, lorsque vous parlez de la messe des messes noires. On ne sait pas qui est le prêtre, mais voilà. De toute façon, on retient quand même que pour vous, c'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Les réponses, c'est vrai, on pourrait peut-être analyser avec notre invité tout à l'heure. Mais il serait vrai qu'on retienne dans vos propos qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a ce dialogue n'est pas inclusif. Vous craignez que les résolutions ne puissent pas avoir un impact sur le plan juridique. Hein. Merci beaucoup, Maître Sombile, 081-890-6315, pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et nous vous signalons que le débat se tient même sur notre page Facebook. Au Congo, l'économie, l'intelligence et l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, nous revenons à vous, honorable Dieudonné Moïse. Moïse, vous avez suivi, je retiens quand même une chose qui a été dite par Pacifique tout à l'heure, lorsqu'il évoque l'esprit et la lettre de la résolution 2277. C'est vrai, les deux chambres ont été insistées pour que tout se tienne dans le respect de la Constitution, la résolution 2277. Est-ce que le dialogue rejette quand même l'esprit et la lettre de cette résolution?
Alors, M. Gire, j'ai suivi avec intérêt les inquiétudes et les préoccupations de vos auditeurs. J'ai suivi Maître Laurent, Maître Tonville, à partir de Lubumbashi, et M. Etienne comme M. Pacifique. Bon, puisque j'ai pratiquement un peu comme une interprétation à faire par rapport à l'article 73, et il est vrai que l'article est clair, et nous avons la même interprétation avec M. Pacifique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scrutin pour l'élection du président de la République doit être réellement convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice.
En principe, c'est l'être.
Oui, c'est ça le principe. C'est-à-dire que ça devait être aujourd'hui. Mais M. Pacifique va se rendre compte qu'on ne convoque pas un scrutin lorsqu'on n'a pas un corps électoral. C'est ça la difficulté. Je crois que c'est ce qui motive la démarche de la CENI de
vers la Cour
constitutionnelle. Donc, nous sommes pratiquement en impasse et nous devons le reconnaître. C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il faudra que, de temps en temps, quand nous faisons l'analyse de la politique de notre pays, que nous puissions nous reverser d'abord dans le contexte exact de ce que nous avons réclamé, c'est-à-dire le dialogue politique national inclusif. Pourquoi nous avons réclamé la tenue de ce dialogue? Si les choses marchaient normalement dans ce pays, un peu comme entre 2006 et 2011, on n'aurait pas à réclamer la tenue d'un forum quelconque. C'est parce que nous nous rendons compte que réellement, il y a des dispositions constitutionnelles qui risquent de ne pas être respectées à la lettre et à l'esprit, qu'il faudra recourir à ce que nous disons, un peu comme la sagesse de ceux qui sont acteurs politiques et ceux qui sont dans la société civile pour pouvoir préserver la paix dans la société. Donc, nous sommes dans une situation telle que, réellement, le dialogue se justifie, mais est-ce que ça se tient par rapport à la résolution du Conseil de sécurité, donc la résolution 2277? Pour ma part, je dirais que oui. Pourquoi je le dis? Puisque je sais que dans ce dialogue, il y a eu des représentants de cette communauté internationale. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai vu les représentants de l'ONU là-dedans soutenir la démarche et la tenue de ce dialogue. J'ai vu également les représentants de l'Union européenne. J'ai vu les représentants de l'Union africaine et même les représentants de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est des l'IFES comme c'est des NDI sont venus s'ajouter. Donc, si ce dialogue ne se tenait pas, conformément à cette résolution 2277, je pense que tous ces délégués de la communauté internationale devaient lever le ton et dire qu'il n'est pas question que ce dialogue puisse se tenir sous ces formes. Donc ça, ça doit être retenu. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que lorsque l'on parle plus du respect de la Constitution, puisque même la résolution parle du respect de la Constitution, mais vous avez suivi et vos auditeurs ont suivi. Je parle par exemple de M. Saïd Binit. Il a dit clairement que tout est en train de se dessiner. Tout est en train, le décor est implanté pour dire que au 19 septembre, le scrutin du président de la République ne sera pas convoqué et que par conséquent, au 19 décembre ou au 20 décembre, il n'y aura pas un président élu qui doit succéder au président actuel. Donc nous sommes pratiquement dans cette impasse-là qui nous commande en tant qu'acteurs politiques responsables de ce pays de pouvoir trouver des solutions. Il est vrai que, comme ont déploré vos auditeurs, les moments sont exceptionnels et qu'il ne faut pas toujours recourir à des solutions exceptionnelles et je l'ai dit, à l'impossible même les tenues, nous avons tout intérêt à préserver la paix. Et dans cette démarche et dans ce souci de vouloir préserver à tout prix l'intérêt de la République et la paix dans ce pays, nous devons recourir à toutes les méthodologies pour permettre à ce que nous puissions lever un consensus commun, un consensus politique, et je pense que c'est ça la démarche et la feuille de route du dialogue, la prévue au point 11, pour que nous puissions réellement avoir un accord politique qui nous permet de projeter dans l'avenir comment doit être la gestion de ce pays après le mandat du chef de l'État, c'est-à-dire au-delà du 19 décembre 2016. Donc, ce qui est connu et ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est le fait que nous puissions tous unanimement constater que réellement les élections ne vont pas se tenir cette année et que nous sommes réellement dans l'impasse regrettable et qu'il faut le dire ouvertement, ça ne devait pas être
voilà, on notre sera, outil, on sera,
mais
on
nous devons projeter l'avenir avec
on ne sera pas allé plus loin avec vous. Honorable Dieudonné Moïse, cadre du PPRD, merci d'avoir été des nôtres, c'est par ici d'ailleurs. Que nous mettons un terme à cette émission en remerciant aussi André Mongou qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Marcel Ngomombala qui a assuré en même temps le standard de cette émission qui a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jaloué. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs, pourquoi pas, s'ouvre encore le dialogue. Merci. À très bientôt.